Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Bienvenue à tous si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir, avec le journal bien sûr dans quelques secondes. 19h20, le Club des Idées, grand débat ce soir sur la révolution des insectes dans nos assiettes. Vous verrez, c'est passionnant. Et puis 19h40, notre rendez-vous quotidien en direct de Roland-Garros, service Pioline, pour tout savoir des matchs du jour et des infos coulisses, avec évidemment Cédric Pioline et toutes les équipes de la rédaction. D'abord le journal, avec Isabelle Millet. 19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Ça rajoute un peu de stress parce qu'il fallait que je refasse le test devant l'entrée. C'est un peu contraignant, mais bon, on n'a pas le choix, c'est obligatoire.
Il est obligatoire, effectivement. Depuis ce matin, pour se rendre dans les rassemblements de plus de 1000 personnes, le pass sanitaire testé dès aujourd'hui à Roland-Garros.
Ce 9 juin marque aussi la réouverture des salles de sport, notamment. On prendra de la hauteur. Caroline Baudry a capté la joie des amateurs d'escalade.
Jean-François Copé, entendu en tant que témoin dans le procès Big Malion. Je suis un bouc émissaire, dit l'ancien patron de l'UMP.
La filière bois va mal. Les scieries françaises sont en péril, elles en appellent à l'État.
Et puis des cas de Covid dans les équipes d'Espagne et de Suède à quelques jours de l'Euro.
La météo, Anissa Dadi, le beau temps s'installe.
Et ce n'est que le début, Julien, nous aurons un très beau jeudi, demain ça fait du bien. Attention toujours au fil des heures, des orages qui arrivent sur les reliefs Pyrénées, Alpes, Corse, tout le monde est concerné, je vous en dis plus à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et depuis aujourd'hui, il faut donc montrer patte blanche pour pouvoir participer à certains rassemblements.
Et les événements de 1000 personnes comme à Roland-Garros, où vous vous trouvez, Johanna Chabas, et où le dispositif est testé depuis ce matin avec succès.
Oui, les spectateurs entrent dans le stade sans difficulté, tout est assez fluide. Du personnel supplémentaire a été mobilisé spécifiquement pour guider le public dans les files d'attente. Et un des premiers à passer les portiques ce matin pour montrer son pass sanitaire était Olivier Véran, le ministre de la Santé.
C'était très simple. D'abord, il y a du personnel qui est formé. Ils ont un appareil numérique qui permet de lire un flashcode. Il y a mon nom, mon prénom, ma date de naissance et il y a marqué « validé » en vert. Les gens n'ont pas à savoir si c'est validé parce que j'ai été vacciné ou si c'est parce que j'ai réalisé un test qui était négatif. Tout ce qu'ils ont à savoir, c'est que c'est validé, donc que je peux rentrer. Donc, a priori, personne n'est contaminé dans l'enceinte de Roland-Garros.
Après le ministre de la Santé, c'est en ce moment même au tour de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, et de Roxana Maracineanu, ministre des Sports, de tester pour la première fois le pass sanitaire. Si jamais un spectateur n'a pas les bons documents, il est alors orienté vers un laboratoire proche pour effectuer un test antigénique. C'est ce qui est arrivé à Yanis.
Ça rajoute un peu de stress parce qu'il fallait que je refasse le test devant l'entrée. D'autant plus que bon, c'est pas confortable à faire, donc c'est un peu contraignant, mais bon, on n'a pas le choix, c'est obligatoire.
En tout cas, tous les spectateurs à qui j'ai parlé sont rassurés par ce pass sanitaire et puis surtout ravis qu'il permette à 13 000 personnes d'être présents dans le stade, le double de ces derniers jours. L'ambiance est donc très festive dans les gradins.
Et on l'a entendu effectivement tout à l'heure. Merci beaucoup Johanna Chabas en direct de Roland-Garros. Et promis, on va vous donner aussi hein, bien sûr des nouvelles des matchs du jour, notamment de Raphaël Nadal qui s'est qualifié pour sa 14e demi-finale. Port d'Auteuil.
Cette étape du déconfinement donc, qui a commencé aujourd'hui, ce n'est pas seulement le pass sanitaire, ce sont aussi de nombreuses libertés retrouver.
Comme le plaisir de retourner au restaurant en intérieur, de pouvoir rester dehors jusqu'à 23h, d'aller nager à la piscine, de faire du sport en salle, de l'escalade notamment. Les amateurs retrouvent leur passion après 7 mois de fermeture. Caroline Baudry s'est rendue dans une salle parisienne. Bonheur des retrouvailles.
Ça fait vraiment du bien de remettre le baudrier et de grimper accroché à une corde.
Chaussons jaunes aux pieds, baudrier bien ajusté. Hugo, étudiant, est venu sur sa pause déjeuner prendre de la hauteur, 11 mètres exactement, pour atteindre la dernière prise du mur d'escalade.
Super sensation. C'est super. Moi, l'escalade, c'est vraiment ma passion.
Passion retrouvée après des mois de privation, comme pour Tom et Maxence, qui reprennent leur souffle assis sur un tapis.
On a un peu mal aux doigts, un peu mal aux pieds, mais ouais, ça me manque aussi. Ça fait partie du sport. Et
peu de gens peuvent comprendre, mais quand on adore ça, c'est un plaisir. On va essayer de rester jusqu'à temps qu'on ait plus de force, en fait, je pense.
Leur temps passé sur place est enregistré grâce au QR code qu'ils ont scanné à l'entrée. C'est l'une des mesures sanitaires ici, explique Pascal, le directeur de la salle.
Si jamais quelqu'un s'avère positif, on peut savoir que tant de personnes ont été potentiellement à son contact. Et sinon, après, on est dans un protocole plutôt classique, à savoir on est obligé de se désinfecter les mains avant et après avoir grimpé, etc., etc.
La jauge est aujourd'hui de 50%, ce qui n'empêche pas, confie-t-il dans un sourire, d'entendre de nouveau les mousquetons chanter.
Le reportage, effectivement, de Caroline Baudry avec les mousquetons qui chantent. L'auteur de la gifle contre Emmanuel Macron est toujours en garde à vue ce soir. L'homme qui a filmé la scène également. Les policiers ont découvert des armes au domicile domicile de ce dernier, ainsi qu'un exemplaire de Mein Kampf.
Quel champion pour la droite en 2022 pour désigner leur futur candidat ? Les Républicains décident de s'appuyer sur deux sondages géants.
C'est tout à fait inédit avec une grande question. Quel nom mettre sur la liste de ces sondages ? En plus de ceux qui se sont déjà portés candidats, faut-il mettre ceux de candidats potentiels, pas encore déclarés ? En tout cas, si et seulement si aucun champion n'émerge à l'issue de ces sondages, eh bien un processus de sélection sera alors lancé, sans doute sous la forme d'une primaire.
Oui, notez que demain matin, Sonia Mabrouk recevra à 18h15 sur Europe 1.
À 8h15, oui, c'est moi qui vous ai mis à 18h.
À 8h15, bien sûr, 18h15, c'est ici même, dans ce studio. Renaud Muselier, candidat LR en PACA. C'est l'un des temps forts du procès Big Malion, l'audition aujourd'hui en tant que témoin de Jean-François Copé.
L'ancien patron de l'UMP qui a toujours assuré qu'il n'avait rien su de la fraude ayant permis à Nicolas Sarkozy d'exploser le plafond des frais de sa campagne de 2012. Chloé Triomphe, vous avez suivi cette journée d'audience à la barre cet après-midi. Jean-François Copé a donc redit à quel point il ne savait rien en se présentant comme le bouc émissaire de cette affaire.
Exactement, et dans la bouche de Jean-François Copé, de plus en plus prolixe à la barre au fil des questions, c'est le même message qui se dégage, répété à satiété. Non, je n'ai pas participé de près ou de loin à l'organisation de la campagne. Ce n'était pas mon sujet, ni ma compétence. Et l'actuel maire de Meaux de clore le débat, c'est en lisant les révélations de Libération en 2014 que j'ai compris en une seconde ce qu'on m'avait caché pendant 2 ans. Jean-François Copé en veut d'ailleurs pour preuve qu'il a été mis hors de cause par la justice et qu'il ne vient ici dans ce procès qu'en qualité de simple témoin. C'est là, ensuite, que l'homme politique joue une autre partition, celle de la victime du bouc émissaire. Cette affaire a été la plus douloureuse de ma vie professionnelle, explique-t-il. J'ai fait le choix de démissionner de mon poste de président de l'UMP. Jean-François Copé parle de la haine qu'il a vue dans les yeux de certains dans le parti, de cet effet de meute. J'étais le bouc émissaire idéal, j'incarnais la relève dont certains ne voulaient pas à droite. Mais inlassablement, les questions le ramènent à l'enceinte judiciaire. Le procureur ironise. Ici, on essaye de comprendre comment tout cela était possible. Je ne sais pas si on y arrivera.
Chloé Triomphe qui suit pour Europe 1 ce procès Big Malion.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes, la suite de votre journal. La France va-t-elle bientôt manquer de bois ?
Et puis les joueurs espagnols et suédois espèrent, eux, ne pas manquer l'euro après la détection de 4 Covid au sein des deux équipes.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du journal, les scieries françaises en danger. Les industriels s'inquiètent effectivement de la flambée des exportations des bois français vers la Chine.
Oui, on vous en avait parlé la semaine dernière sur Europe 1. C'est un sujet important car ça nous impacte tous potentiellement. Le bois, on en a besoin dans la vie courante pour beaucoup de choses. Les professionnels interpellent donc l'État français. C'est l'avenir de la filière qui est en jeu, disent-ils. Une pétition vient même d'être lancée. Écoutez, Nicolas Douzin, il est le délégué général de la Fédération nationale du bois.
Aujourd'hui, on fait face à une vague très importante d'achats de la Chine auprès des forêts françaises et enchaîne un tiers de la ressource par chaque mois en Chine. Et donc, nous avons lancé un cri d'alerte auprès des entreprises. Et en 24 heures, plus de 3000 ont déjà signé notre pétition, ce qui est bien plus que ce que nous pensions. C'est à l'État de prendre des dispositions pour réguler tout ça. C'est un système qui s'est généralisé en 6 mois. Le président de la République, lors de sa campagne présidentielle, avait indiqué qu'il s'agissait de la plus grande aberration économique et écologique. Et je crois que c'est maintenant à lui de prendre les bonnes décisions. La France est un grand pays forestier, peut le rester, doit développer son industrie et faire barrage à ses exportations sauvages.
Le délégué général de la Fédération nationale du bois, joint pour Europe 1 par Olivier Samain, la filière bois qui sera reçue demain par le ministre de l'Agriculture pour essayer de trouver une solution.
On suivra également dans les prochains jours le premier déplacement de Joe Biden en Europe.
Au Royaume-Uni d'abord, où le président américain va s'entretenir avec Boris Johnson et participer à un sommet du G7, puis à des sommets de l'OTAN et de l'Union européenne à Bruxelles. Sommet avec le président russe est également prévu.
Allez, on prend des nouvelles tout de suite de Roland Garros.
Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
Et de Rafael Nadal, qui, ça y est, a battu l'Argentin Schwarzman. Vous l'avez suivi en direct sur Europe 1. Ce soir, il s'est qualifié pour sa 14e demi-finale, porte d'Auteuil. Il retrouvera Novak Djokovic ou l'Italien Matteo Berrettini, qui s'affrontent ce soir. Chez les dames, Barbara Krejcikova et Maria Sakkari disputeront, elles, leur première demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Elles ont respectivement battu l'Américaine Coco Gauff et la tenante du titre, c'est ça, Iga Świątek. Le tennis féminin, décidément chamboulé cette année, puisqu'aucune des demi-finalistes actuelles n'est allée aussi loin jusqu'à présent en Grand Chelem.
Pour jouer et tenter de gagner vos places pour la finale de Roland-Garros, envoyez dès maintenant tennis au 739 21. 75 centimes plus coût d'un SMS. 2 SMS pour jouer.
Et puis en foot maintenant, l'Espagne et la Suède voient leur préparation à l'Euro totalement chamboulée avant leur affrontement de lundi.
Car deux joueurs de chaque équipe ont été dépistés positifs au Covid. Du coup, branle-bas de combat, hein, Julien Froment.
Exactement, à commencer par la sélection espagnole qui a pris une mesure d'urgence. Tous les joueurs seront vaccinés, annonce faite par le ministère de la Santé espagnol. Le staff technique a également constitué une deuxième bulle de 17 joueurs, 6 réservistes appelés en début de semaine, plus 11 joueurs issus de la sélection espoir de l'Espagne. Le but, eh bien, pallier d'éventuels nouveaux cas de Covid dans les rangs ibériques. Le sélectionneur Luis Enrique a jusqu'au premier match de l'Euro lundi prochain à Séville pour effectuer des changements dans son groupe de 26 joueurs s'il y a bien sûr des cas de Covid constatés par l'UEFA. Quant à la Suède, vous l'avez dit, qui compte également 2 cas, eh bien, elle va renforcer ses mesures anti-Covid, tests antigéniques quotidiens, réunions en intérieur en plus petits groupes et dans des espaces plus grands. Pour rappel, le match sera maintenu si les deux équipes disposent de 13 joueurs, y compris d'un gardien. Sinon, l'UEFA peut reprogrammer la rencontre dans les 48 heures. Si le report est impossible, c'est alors l'équipe jugée responsable et bien qui sera sanctionnée d'une défaite sur tapis vert 3-0.
Merci pour ces explications.
Sur les cas de Covid, non, jamais.
Non, mais sur le match.
Non plus.
Bon, très bien, comme d'habitude.
On rappelle que le coup d'envoi de 7 euros que l'on suivra bien sûr sur Europe 1, c'est vendredi. Et puis la commission d'appel de l'UEFA annonce qu'elle suspend jusqu'à nouvel ordre la procédure disciplinaire engagée contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, les 3 derniers clubs mutins qui refusent toujours de renier l'éphémère projet de Super League privée.
Merci ma chère Isabelle. On vous retrouve demain évidemment à partir de 18h. La météo, Anissa Dadi, même si le beau temps domine, les orages restent, attention, menaçants demain.
Oui, ils sont toujours là ces orages. C'est vrai que sur le flanc est, on n'arrive pas encore à se débarrasser de ces orages qui concerneront les reliefs demain. Donc le Jura, les Vosges, les Alpes, les Pyrénées, la Corse, demain en montagne, ça risque de tonner assez fort. Sur le reste du pays, après la dissipation des quelques nuages sur la Bretagne et peut-être quelques petites gouttes, on a des averses qui, du côté de Rennes par exemple, prévues demain après-midi. Partout ailleurs, ça reste quand même une journée au sec, une journée agréable sous le soleil, quelques passages nuageux, mais vraiment, c'est agréable. Dans le sud, le Mistral et la Tramontane faiblissent doucement. On aura des rafales à 40 km/h demain. Côté température, c'est stationnaire. 10 degrés à Charleville-Mézières, 16 à Paris, 22 à Perpignan demain matin et dans l'après-midi, nous aurons 23 degrés à Caen et Lorient, 25 au Puy-en-Velay, 28 à Paris et Cherbourg, 29 pour Bordeaux, 30 à Marseille, 31 degrés à Nîmes et 33 la maximale pour demain du côté de Perpignan.
Merci ma chère Anissa.
À demain.
Europe 1, Julien Bugier.
19h13, restez avec nous dans un instant. Le débat du Club des Idées sur nos amis les insectes qui s'invitent maintenant dans nos assiettes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir dans le débat du Club des Idées, êtes-vous prêt à manger des insectes? Vous avez bien entendu, c'est la révolution qui s'annonce dans nos assiettes, paraît-il. L'Europe vient en tout cas de donner son feu vert à leur utilisation pour l'alimentation humaine. Alors est-ce le début d'une révolution culinaire qui ne dit pas son nom? À quoi ressemblera d'ailleurs notre assiette en 2030 ou en 2050? On en parle ce soir avec nos invités et notamment le patron du champion français de cette nouvelle alimentation, Antoine Hubert. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président et cofondateur de la société Insect, qui n'est autre que l'un des leaders mondiaux de la production d'insectes. Est-ce que vous n'êtes pas un peu fou quand même de vouloir nous faire manger des insectes?
Qu'on a commencé à 10 ans, c'est tout ce que tout le monde nous le disait. Mais on a commencé d'abord par s'intéresser au marché des animaux, des plantes.
Oui.
Où les poissons mangent naturellement des insectes, c'est assez évident. Les plantes sont fertilisées par les insectes dans la nature. Mais de fil en aiguille, on n'a jamais perdu l'intérêt d'un jour nourrir l'homme en direct. Et avec notre croissance aujourd'hui, on est capable d'absorber des nouveaux développements. Et on se lance depuis début de l'année avec la bonne nouvelle européenne.
Alors on va en parler, mais d'abord j'ai découvert que vous étiez une star aux États-Unis.
Ah bon?
Parce que... pendant la finale du Super Bowl, ouais. C'est là où les publicités sont les plus chères. C'est regardé par des dizaines de millions d'Américains. Il y a Iron Man, en la personne de Robert Downey Jr., qui a fait votre promotion dans le Late Show très regardé de Stéphane Colbert. On écoute.
That's an insect-based premium protein. It's made from Molitor, which is mealworm larvae. The company is called Insect.
Alors, Robert Downey Jr., il dit « C'est une immense innovation dont la consommation par l'homme vient d'être approuvée par l'Union européenne. Nous faisons les choses de façon incorrecte », a expliqué Robert Downey Jr. « Si nous faisons ce changement, c'est une évolution très importante. » Quelle pub !
Oui, tout à fait. C'est qu'on ne s'y attendait pas. Enfin, il nous soutient depuis un peu plus d'un an. Et on a eu l'occasion d'échanger à différents moments avec lui et ses équipes. Il a eu l'occasion de passer effectivement à ce moment-là dans cette émission et de dire est-ce que vous voulez, on peut parler de vos produits si vous avez envie. Et c'était une immense opportunité absolument inattendue. Ouais.
Bien, super soutien. Alors, On est ravis de vous recevoir car vous êtes l'un des lauréats des trophées de l'avenir européen qui récompensent donc chaque année depuis 6 ans maintenant des entreprises, des associations, des collectivités pour leurs innovations et leur vision sur l'avenir. On est également avec Constance Benquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de Lagardère News et donc de notre belle maison européen. Vous êtes en somme ma patronne d'une certaine manière. Je suis ravi de vous recevoir. Et on est également avec Alexandre Mars, entrepreneur à succès, roi de la tech française, qui a présidé ce jury des trophées de l'avenir. Quelques mots peut-être, Constance, pour commencer sur ces trophées 6e édition. En partenariat avec Clarins, Business France, 32 candidats au départ pour 8 primés.
C'est clair. Alors, c'est une initiative qui a été lancée il y a 6 ans, en 2015, à l'occasion de la COP21. À l'époque, c'était très environnemental et avec le temps, ça s'est élargi. Ce Grand Prix s'adosse à une émission qui est La France bouge sur Europe 1 tous les jours de 13h à 14h. Et la cérémonie d'aujourd'hui, elle est le fruit d'un travail d'équipe qui, toute l'année, reçoit de jeunes entrepreneurs de tous horizons et qui débusque les initiatives, les innovations, les bonnes idées, et ce, dans toute la France.
Alors, il y avait plein de nommés aujourd'hui, évidemment. Ouais. Extra Student, par exemple, une plateforme pour s'entraider entre lycéens et étudiants. Omni, qui permet aux personnes en fauteuil roulant de faire de la trottinette électrique. Banlieue Santé, qui rapproche les médecins des quartiers populaires. Une société qu'on connaît bien, nous, ici à Europe Soir, parce qu'on en parle tous les jours. Covid Tracker, le site pour suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus, Covid List, le site qui accélère la campagne de vaccination contre la Covid. Et vous avez rendu votre verdict aujourd'hui. Il y a donc 8 lauréats.
Il y a 8 lauréats, tout à fait.
Est-ce qu'on peut les donner ?
Alors, tous les lauréats vont...
Quelques-uns, en tout cas.
Alimentation Insect, Solidarité, Forestime, ce sont des vêtements, c'est un truc incroyable pour les personnes un petit peu qui n'ont pas forcément une mobilité parfaite. En environnement, Ombrea, l'éducation, Digital. Moi, j'ai été, en effet, comme vous l'avez dit, très impressionnée par Omni et sa créatrice Charlotte Allot sur ces trottinettes électriques qui peuvent s'adapter sur des fauteuils roulants. Covid Tracker, bien sûr. Covid Tracker, ce qui est incroyable, c'est que le jeune ingénieur, il a 24 ans. Et il a monté sa boîte avec des bénévoles.
Oui.
Donc il y a eu beaucoup d'émotions dans cette...
Et le
gouvernement s'est appuyé sur lui aussi.
Moi, j'adore, c'est mon idole.
Non, mais c'est génial. Ce prix part toujours d'une inspiration personnelle, je crois, de chacun des lauréats et de chacun des participants, et qui ensuite grandit, et on les aide à grandir.
Oui. Alexandre Mars, la dernière fois que je vous ai reçu ici même, il n'y a pas si longtemps, dans le studio d'Europe 1, vous me disiez, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas compliqué, il faut sentir les choses et avoir une bonne idée. Ben là, vous en avez vu plein des idées.
Énormément. Et c'est vrai que c'est ce que fait la France. Je ne vais pas dire fait de mieux, parce qu'on fait beaucoup de belles choses en France, mais c'est ça qu'on a pu voir, des entrepreneurs, des femmes, des hommes qui se sont lancés, qui ont répondu à un besoin. On prenait Guillaume Rosier de Covid Tracker, il s'est rendu compte qu'il y avait un besoin qui n'était pas assouvi. Il a développé un nouveau produit. Et ça fait plaisir, on voit ces succès, parce que ce sont des succès, il ne faut pas, et ça, Constance le sait parfaitement, ce n'est pas uniquement des entreprises qui vont avoir un projet et qui vont se dire, il n'y aura pas de lendemain.
Oui.
On prend Antoine Hubert de Insect, c'est aujourd'hui une des entreprises qui a le plus de succès dans son secteur, mais pas uniquement en France, en Europe et bientôt aux États-Unis. C'est ça qui est intéressant dans ces trophées de l'avenir. Le terme de l'avenir, c'est la beauté de ce qui existe en France.
J'ai vu que Insect était d'ailleurs devenue la start-up la plus capitalisée hors États-Unis dans l'agritech avec près de 200 millions d'euros. Je me trompe ?
Oui, c'est près de 450 millions.
450 millions. J'ai regardé ça, c'était en 2020. Ça veut dire qu'en 2 ans, vous avez gagné le double de capitalisation.
Non, c'est le dernier rapport était 200, mais il y avait déjà eu un peu avant.
Quel succès. Constance, est-ce qu'il y a des entreprises, des initiatives qui vous ont particulièrement touché. On rappelle que dans le jury, il y a évidemment des gens de la rédaction, il y a Emmanuel Duteil, il y a Elisabeth Assayag qui présente l'émission La France bouge.
Mais aussi Sophie Viguier de l'École 42, Guillaume Pépi,
l'ancien patron de
la SNCF et qui a monté Initiative France, il y a Maurice Lévy, il y a Olivia Grégoire, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, Christian Courtin, notre partenaire, Marie-Cécile Tardieu de Invest, de Business France, partenaire aussi, et j'en oublie, Fanny Agostini, Hervé Gattegno, Benoît Serre, Nathalie Carré, enfin vraiment, merci pour tout. Et je rajoute une chose, c'est important, c'est qu'il y a un prix spécial des auditeurs aussi, donc c'est une émission et un prix qui est très interactif, puisque sur le prix des auditeurs, on a plus de 12 000 auditeurs. Je les remercie d'ailleurs de nous écouter, je les remercie de voter. Donc c'est très interactif et c'est très intéressant pour
ça. Et on précise que les lauréats d'ailleurs participeront à une édition spéciale de La France bouge, animée par Elisabeth donc et Emmanuel, demain entre 13h et 14h. Ils seront a priori tous là. pour raconter leur business et expliquer leurs initiatives. Vous aimez les insectes ou pas, Constance ?
J'en ai goûté une fois dans un restaurant norvégien, mais je compte bien sur vous pour m'en faire goûter un peu plus.
Plaisir. Je sais que vous aimez la bonne chair et la bonne cuisine.
C'est sûr.
Est-ce que les insectes en font partie ? Je ne sais pas. Vous aimez les insectes ou vous pourriez aimer les insectes,
mais évidemment, moi,
mon cher
que,
Alexandre ?
Ce que fait Antoine et ses équipes, je suis toujours ravi de tester, de goûter. Donc voilà, c'est, ça donne envie de faire les choses différemment.
Bien. Est-ce que c'est une entreprise qui vous a surpris, Alexandre ? Vous avez écrit un bouquin pour l'entrepreneuriat, vous êtes un entrepreneur à succès. Parfois, on dit le Bill Gates français, d'ailleurs. Peut-être un peu exagéré, mais quand même, vous êtes perçu comme ça par vos pairs. Est-ce que vous avez le sentiment que ça, c'est une entreprise qui peut demain réussir encore plus qu'elle le fait aujourd'hui ?
Julien, vous parlez d'insectes en particulier ? Oui, je pense qu'insectes... Et c'est intéressant tout à l'heure parce que vous citiez le nombre de zéros qu'ils ont réussi à lever. Je pense que c'est plus que ça. C'est déjà, en fait, on voit le besoin et c'est ça, ils ont des clients. C'est-à-dire qu'on peut lever beaucoup d'argent, mais il ne faut pas imaginer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui et des gens qui étaient là aujourd'hui, qui étaient nominés, et de lauréats, qui n'ont pas besoin de lever 450 millions d'euros pour réussir.
Oui.
C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Parfois, c'est vrai d'avoir, et Antoine, c'est bien d'avoir des Antoine Hubert qui démontrent que c'est aussi une société capitaliste, mais c'est pas que ça, ce qu'ils offrent à côté de ça. Et puis, on peut aussi créer son petite entreprise avec 2-3 personnes. Et ça aussi, on a quelques lauréats. Quand on prenait Omni, oui, on s'en en parlait. C'est une petite entreprise qui aide les personnes en chaise roulante d'adapter en fait, les chaises roulantes sur une trottinette. Bien. Vous imaginez ?
Et on est très fiers, vraiment, on le redit à l'antenne, on est très fiers de porter aussi ces valeurs-là, et de porter, d'aider, et de donner de la visibilité aussi à ces entreprises et à ces innovations partout sur le territoire national. 19h25, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants avec nos invités, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on continue ce soir dans le débat du Club des Idées de parler de l'assiette de demain, manger des insectes. Oui, c'est déjà le cas, et pour en parler, on est avec toujours Antoine Hubert, qui est avec mes côtés dans le studio d'Europe 1. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Président et cofondateur de la société, on en parlait juste avant la pause, Insect, et nous a rejoint Mélissa Ancry. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes diététicienne, micronutritionniste. Alors, il paraît que manger des insectes, c'est bon pour la santé ?
Oui, c'est vrai, une vraie valeur nutritionnelle vraiment intéressante. Et tout d'abord en protéines, il y a énormément de protéines, environ, enfin selon l'insecte, mais on peut partir sur à peu près 70% de protéines dans l'insecte, donc c'est vraiment très intéressant. Et en parlant de
sur
protéines...
Sur des petites quantités, c'est-à-dire on ne mange pas beaucoup d'insectes et on a beaucoup de protéines, c'est ça ?
Oui, en fait, parce que dans l'insecte, il y a un fort pourcentage de protéines.
Ouais, ouais.
Et en plus, des protéines qui sont vraiment bien assimilées. Il y a des études qui ont montré qu'on transformait cette protéine aussi bien qu'une protéine du lait, par exemple.
Bien. Alors, je disais que c'est déjà arrivé dans nos assiettes d'une certaine manière, pour l'instant, un peu pour l'apéritif, comme ça, pour le folklore, quand même, d'une certaine manière. On a tous vu ou goûté, pour certains, un criquet par-ci, une petite insecte par-là. Et en novembre 2013, le patron d'un resto parisien venait tout juste d'en proposer pour la première fois la carte des insectes venus de Thaïlande. Il était venu sur Europe 1 au micro de d'Arlette Chabot pour en parler.
On peut déguster chez nous des sauterelles, des scarabées, des vers à soie, des vers de sago ou vers de palmier. On a une clientèle qui a plus que doublé, je pense. Ça brasse énormément. Des gens très différents, une clientèle très cosmopolite. Ça va être des familles, des jeunes couples, des gens seuls, des jeunes, des groupes.
Alors pour l'instant, Antoine Hubert, le positionnement de votre entreprise, c'est surtout des insectes à destination de la nourriture animale. Mais vous avez vocation aussi demain à en proposer pour nous les humains ?
Oui, tout à fait. On est en phase de développement depuis aussi l'acquisition d'une société aux Pays-Bas en mars et après l'annonce européenne qui permet d'avoir le feu vert pour vendre les produits de notre scarabée Molitor pour l'alimentation humaine. Aujourd'hui, on s'est vraiment lancé activement pour démarrer effectivement cette filière. D'abord dans la nutrition sportive, on va commencer par un ingrédient plutôt technique, fonctionnel, qui amène des bénéfices nutritionnels et santé, et pour commencer à habituer le consommateur dans des barres céréalières, des boissons énergétiques.
Des barres céréales aux insectes.
Ouais, des barres. Mais pas que ça, il y a aussi d'autres ingrédients, ça peut être avec du chocolat, ça peut être avec des baies, ça peut être des céréales.
Donc,
voilà.
Pour les sportifs qui aiment faire de la gym et qui boivent ce petit cocktail de vitamines ou de protéines juste après sous forme de poudre, demain, ils pourront prendre l'équivalent en barre d'insectes.
Tout à fait, ça. Avant l'effort, il y aura les produits avant l'effort, pendant l'effort, après l'effort pour la récupération. Et on a il y a des études qui démontrent que c'est aussi qualitatif que le lait, qui est la meilleure protéine aujourd'hui pour les sportifs et pour la nutrition. Et donc, on a un très bon produit qui a en plus un positionnement sur le développement durable, la durabilité qui est extrêmement positif. Donc, ça attire beaucoup de consommateurs un peu plus jeunes dans les grandes métropoles, effectivement, en France, en Angleterre, en Allemagne.
Alors, j'ai découvert en préparant cette émission que, on s'en souvient, la France a un peu raté le tournant d'Internet dans les années 2000. Eh bien, elle semble avoir pris le tournant de la nouvelle food, on appelle ça comme ça. La France est devenue pionnière dans l'élevage d'insectes, des usines qui fonctionnent toutes seules grâce à des robots. Et je me fais attaquer par une mouche en même temps. Vous voyez, c'est un signe.
C'est pas moi. C'est un signe.
Dans lesquels vous faites l'élevage de ces petites bêtes et le conditionnement et tout est automatisé, c'est ça ?
Oui, c'est derrière, c'est un super produit, mais derrière, il y a des vraies prouesses technologiques qui ont été faites depuis 10 ans de recherche avec des grands partenaires académiques français, européens, des cabinets d'ingénierie, nos équipes. On a plus de 300 brevets dans le monde, donc c'est vraiment extrêmement pointu. C'est des robots, des automates qui vont déplacer finalement des bacs où sont contenus les insectes. On s'est basé sur la filière des vers à soie. C'est millénaire comme industrie. Oui. C'est ce qui a façonné l'économie entre l'Europe et la Chine pendant des siècles.
Alors,
et
il y a des robots, mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a des emplois.
Mais il y a des emplois, beaucoup d'emplois, tout à fait. Tout ça. Aujourd'hui, on est 200 personnes. On sera 300 personnes l'année prochaine. On va créer plus de 500 emplois directs et indirects sur le bassin d'Amiens. Donc non, ça crée de l'emploi. Mais aussi, il y a beaucoup de technologies donc, qui permettent de protéger, de garder des emplois non délocalisables. On a, sur notre site, c'est 1 milliard de données qui sont générées par jour par l'ensemble des capteurs. Donc, tout ce qui est intelligence artificielle qui tourne derrière. Donc, c'est à la fois très terrain, c'est du pragmatisme de l'éleveur avec de la très grande sophistication.
Est-ce que ça pourrait révolutionner aussi, Mélissa Ancry, la malnutrition dans certains pays en voie de développement ?
Ah ben oui, très certainement, puisque c'est très facile à produire. Ça demande beaucoup moins de place. Et plus écologique. Et effectivement, quand on a du mal dans les pays comme ça en malnutrition, c'est vraiment un domaine intéressant à développer.
C'est un élément sur lequel vous planchez, sur lequel vous réfléchissez, Antoine Hubert ?
Je pense qu'un jour, effectivement, ça fera partie des intérêts. Nous, on s'est concentré d'abord sur convaincre le consommateur français occidental, plutôt.
Il y a du boulot pardon de vous le dire, mais il y a un peu de boulot.
Oui, il y a du travail, mais comme il y a eu dans d'autres... On s'est habitué à une consommation de produits asiatiques aussi, les surimi, dans les dernières décennies. Donc, il y a quand même une tradition de consommation d'insectes dans d'autres continents, au Mexique, en Asie, en Afrique centrale. Et on peut produire, effectivement, au-delà après la nutrition sportive, demain, peut-être justement des burgers. Vous avez des produits aujourd'hui qu'on sait faire et vous ne saurez jamais vous rendre compte que ça vient d'un insecte. C'est du plaisir, de la dégustation.
C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'il y a le goût derrière tout ça. Une barre céréale pour donner un peu d'énergie aux sportifs, c'est bien, mais le bon goût. La qualité gustative.
Ce qui est finalement intéressant, c'est que le produit est très neutre aussi. À l'inverse, c'est qu'on peut justement l'utiliser dans des préparations sans que ça amène un goût très fort, ou très prononcé, qui serait peut-être difficile pour le consommateur. Non, c'est un goût très neutre. Donc en fait,
très
on arrive vraiment très neutre. Même en odeur, en odeur et en goût, vraiment très neutre. Donc c'est ça aussi que les clients apprécient, c'est qu'ils peuvent commencer à l'utiliser dans différentes applications. Sans que ça perturbe effectivement leur préparation.
Alexandre Mars, ça vous inspire ça de manger des burgers aux insectes demain ?
Le monde, ce qui m'inspire, c'est que le monde change et que Antoine Hubert et ses équipes le comprennent et s'adaptent. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on voit au quotidien, c'est qu'il y a une offre et la demande. Il y a des entrepreneurs qui ont vu qu'il y avait un besoin, qui ont développé une offre par rapport à ce besoin-là, donc c'est très impressionnant. Ce qu'il faut aussi dire rapidement sur Insectes et sur Antoine Hubert, qui représente par son succès et ce que font certainement de mieux les Français en entrepreneuriat, il a décidé de redonner directement une partie d'un succès futur. Si Antoine a son succès dans cette entreprise-là, il s'est déjà engagé à donner une partie de son succès futur à des causes sociales. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est les entrepreneurs d'aujourd'hui. Ils ne sont pas là que pour le profit. Ils travaillent aussi pour le sens et cette quête de sens. On passe du chacun pour soi. Tous pour tous, merci Antoine.
Merci Alexandre.
Incroyable comme business.
J'ai une petite question tout à fait simple. Si on a envie de manger un burger d'insectes, on fait comment ?
Aujourd'hui, ce n'est pas disponible en France. On les vend en Allemagne, aux Pays-Bas. Et l'objectif, c'est effectivement de le déployer beaucoup plus largement en Europe.
Mais dans les restaurants ou alors vous en vendrez
directement ? C'est dans des chaînes de grande distribution en Allemagne, aux Pays-Bas.
Ah d'accord, donc on pourra acheter un burger.
Constant, ça sera marqué sur la carte.
C'est pas caché, c'est bien explicite. Mais en fait, quand on voit le produit, on ne pourrait pas savoir si c'est un insecte.
On peut boire un bon verre de vin avec quand même.
Avec grand plaisir. Parce que c'est un bon bourgogne, un bon bordelais.
Merci infiniment de nous avoir expliqué ce nouveau marché. Constance Benquet, il y aurait évidemment une nouvelle édition l'an prochain.
Bien sûr, la nouvelle édition l'an prochain, où toute l'équipe va travailler. Et tout à l'heure, j'ai oublié de dire une petite chose, c'est le prix des auditeurs qui a été décerné à une équipe formidable qui s'appelle les Déterminés et qui encourage les jeunes, pas forcément dans une situation facile, à avoir une démarche entrepreneuriale et à monter leur propre boîte. Et c'est un joli prix, c'est le prix des auditeurs.
Bon, ne ratez pas la France Bouge, demain 13h pour trouver toutes ces innovations, tous ces entrepreneurs. Vous allez voir, c'est formidable, ça donne la pêche aussi par les temps qui courent. Merci à tous les quatre.
Merci beaucoup.
Europe 1, Julien Bugier.
Une courte pause, 19h36. Dans un instant, on va aller à Roland-Garros, service Pioline, évidemment, comme tous les soirs, notre rendez-vous quotidien pour la quinzaine de Roland-Garros avec Cédric Pioline et toutes les équipes Europe 1. Tout de suite.
Service Pioline sur Europe 1, votre rendez-vous Roland-Garros avec Julien Bugier.
C'est les matchs Nadal. 3 manches à 1, 6-3, 4-6, 6-4, 6-0.
Mais c'est la surprise du jour. Enfin, pour le moment, l'élimination cet après-midi de la tenante du titre, Iga Swiatek. Bonsoir, Cédric Pioline.
Il ne vous entend pas, Cédric.
Bonsoir, peut-être... Corinne Boulou, alors.
Bonsoir.
Notre spécialiste.
Mais il est là, hein, Cédric, à mes côtés.
Là. En tout cas, on est rassurés. Vous êtes Bonsoir. Tous les deux présents dans le studio d'Europe 1 en direct de Roland-Garros. Salut, Cédric. Ainsi que Johanna Chabaz, qui nous fera découvrir l'un des aspects méconnus du tournoi. Corinne, on commence comme tous les jours, d'abord par les faits marquants et les résultats du jour. Hein.
Oui, avec bien plus de public en tribune, Julien. C'est ce qui nous a frappé, nous, aujourd'hui, notamment pour assister à la qualification en demi-finale du tenant du titre, Rafael Nadal. C'est net, hein, la mise en œuvre du pass sanitaire permet d'accueillir aujourd'hui un peu plus de 13 000 spectateurs et cela se voit dans les tribunes du cours Philippe Chatrier où ont eu lieu les derniers quarts de finale. Et il y en a encore un qui va avoir lieu, d'ailleurs, dans quelques minutes. Hein, ça va vraiment nous changer du huis clos. On va retrouver l'ambiance d'un grand chelem. Et cela faisait 2 ans que nous n'avions pas vu autant de public dans les allées en tribune. Du coup, l'ambiance est montée de plusieurs degrés, comme la température aujourd'hui à Roland-Garros.
Alors, avant de revenir sur la surprenante élimination de la tenante du titre, revenons sur la qualification il y a 1h30 de Rafael Nadal.
Oui, sans surprise, vous me direz, l'Espagnol a quand même perdu un set en route. Le deuxième, tout le crédit en revient au 10e mondial, Diego Schwartzman, que le public n'a cessé d'encourager tout au long du match. Assez incroyable, hein. Alors, Rafael Nadal a élevé son niveau de jeu dans le 3e et 4e set, infligeant même un 6-0 à l'Argentin pour boucler son quart de finale en 2h45. Allez, on l'écoute, Rafael Nadal, interrogé sur le court après sa victoire.
Diego, c'est un joueur incroyable, toujours très difficile pour moi. Pour moi, c'est toujours incroyable de retourner à la demi-finale une autre fois. Je vous dis, pour moi, merci beaucoup à tout le monde ici à Paris.
Et Nadal quand même applaudi évidemment et salué puisqu'il est en route pour une 14e demi-finale. Lui qui n'a jamais perdu à Roland-Garros quand il se hisse dans le dernier carré du tournoi.
Bon, comment ça s'annonce, Cédric, selon vous, Nadal, pour ses retrouvailles éventuelles vendredi avec Djokovic?
Écoutez, c'est un petit peu le rendez-vous qu'on attendait lorsqu'on a vu le tirage au sort avec Nadal, tête de série 3, qui s'est retrouvé dans la partie de Djokovic. Donc pour l'instant, lui est au rendez-vous. On va savoir un peu plus tard dans la soirée si Djokovic va le rejoindre. Mais c'est vrai que il est favori. Certes, il a perdu un set. Schwartzman, c'est quand même un bon client, même si on sait que grosso modo, d'ailleurs, c'est ce qui se passe sur 10 fois lorsqu'il joue. Il perd une fois, de temps en temps, il est un peu accroché, de temps en temps, il gagne facilement. Donc, je pense qu'il est là où il avait envie d'être et surtout, il joue très bien.
Ah oui, c'est vrai que c'était impressionnant.
Et donc, la surprise dans le tableau féminin, c'est donc, Corinne, l'élimination de la tenante du titre.
En effet, Julien, Iga Swiatek avait réussi un sans-faute hein, jusqu'à présent. Et puis, trop de pression sur les épaules, comme elle l'a reconnu ensuite. Elle a mal négocié son quart de finale. La grecque Maria Sakkari, qui disputait, elle, un premier quart de finale en Grand Chelem, n'a pas tremblé. À 25 ans, la 18e mondiale a disposé de la tenante du titre. 6-4, 6-4. Pas vraiment une surprise pour la Belge Justine Hénin, 4 fois victorieuse à Roland-Garros.
Moi, j'en étais pas persuadée. Je savais que la fin, le chemin serait encore long pour elle parce que tout à coup, elle s'est retrouvée comme la grandissime favorite du tournoi. Et ça, je pense que ce qui n'était pas encore le cas en début de tournoi. Et petit à petit, Je pense que c'était peut-être pas facile pour elle. Aujourd'hui, elle passe un peu à côté, probablement gênée un petit peu sur le plan physique, mais je pense qu'elle a eu non seulement un jour sans, mais poussée par une Maria Sakkari qui a joué très intelligemment, qui n'a pas eu peur d'aller la chercher sur son côté coup droit de manière plus franche et qui l'a fait déjouer un petit peu. C'est aussi ça qui s'est passé.
Voilà, la grecque Maria Sakkari affrontera en demi-finale la tchèque Barbora Krejčíková, 33e mondiale, tombeuse de l'américaine de 17 ans Coco Gauff. Au passage, il y aura deux grecs en demi-finale avec la présence de Stefanos Tsitsipas dans le tableau messieurs.
Oui, alors Cédric, étonnant hein, ce tableau féminin où les quatre joueuses du dernier carré vont disputer pour la première fois une demi-finale en Grand Chelem.
Ah ben oui, on aura une nouvelle lauréate, comme c'est relativement souvent le cas. C'est vrai que encore une fois, c'est assez logique. On voit que le tennis féminin manque de locomotive claire. Donc c'est vrai que, comme l'a très bien résumé Justine Hénin, c'était peut-être un petit peu lourd sur les épaules de cette jeune Polonaise qui reviendra et peut-être regagnera ici. Mais c'est vraiment intéressant d'un point de vue tennistique, sauf que évidemment le grand public a un petit peu de mal à s'y retrouver avec tous ces nouveaux noms à chaque fois, des joueuses qui sont pas très connues, mais bon, qui jouent très bien et oui, qui méritent leur place en demi-finale.
Mais c'est vrai que quand on regarde les lauréates, hein, on voit donc là, c'était Świątek, il y a eu Barty, Ostapenko, Alep, Muguruza. Enfin, ça change tous les ans, effectivement, c'est sur ces dernières éditions, Julien.
Bien. Merci les amis, on vous retrouve dans quelques secondes pour la deuxième manche de Service Pioline. À tout de suite.
Julien Bugier,
Cédric Pioline,
Roland Garros 2021,
Europe 1, radio officielle.
Oui, comme promis dans cette deuxième partie de notre rendez-vous, Service Pioline avec l'œil de Johanna dans quelques secondes sur les à côté du tournoi, la question qui fâche à Cédric Pioline. Et on commence d'abord, Corinne, par l'info insolite du jour.
Alors, saviez-vous qu'un chat noir a fait perdre tous ses moyens ici à Roland-Garros à une équipe de double? En fait, c'est l'œuvre du Roumain Ilina Stas, connu pour ses frasques et ses blagues plus ou moins bonnes, hein, d'ailleurs, sur le circuit. Nous sommes en 1977. Nastase avait remarqué dans un tournoi précédent que ses futurs adversaires s'étaient signés à la vue d'un chat noir par superstition. Alors, avant de disputer son quart de finale, ici, porte d'Auteuil, avec Bob Hewitt, face à la paire italienne Panatta Bertolucci, eh bien, Nastase, en bon farceur, récupère un chat noir qu'il cache dans son sac. Il libère le félin juste avant le début du match, au grand dam évidemment de ses adversaires. Panatta était, paraît-il, dans tous ses états et il en a voulu longtemps à son ami Nastase. N'empêche, le stratagème a fonctionné puisque la paire Nastase et Witt s'est qualifiée ce jour-là pour les demi-finales, mais elle n'ira pas plus loin.
Bien, c'est vrai que l'histoire fait sourire. Aujourd'hui, Cédric, Nastase était imprévisible. Aujourd'hui, ça semble plus difficile quand même sur le circuit.
Voire impossible de faire ce genre de manigance, si je puis dire. C'est vrai qu'il n'y a plus trop ce genre de caractère déjà. Ça s'est énormément calmé, polissé, lissé. Donc,
trop
Oui, trop, un petit peu trop.
Il y a Djokovic qui a essayé de faire des blagues dans le vestiaire, ça lui est arrivé.
Oui, ben un peu même un peu sur le court, un peu des imitations. Il faisait des entrées il collait à certaines dates, Halloween, tout ça. Et puis petit à petit, ça a disparu. Ça a fortement déplu à certains de ses concurrents lorsqu'ils ont été parodiés. Donc oui, c'est très délicat. C'est très touchy. Parce que ça devient public, donc on peut passer pour un idiot, quoi.
Oui. Allez, changement de côté, balle neuve pour le regard de Johanna Chabas sur Roland Garros. Bonsoir Johanna.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, vous êtes allée à la rencontre de ceux qui, comme nous, rendent compte du tournoi au quotidien, les journalistes qui disposent de structures spécifiques à Roland Garros.
Oui, il faut imaginer comme un petit labyrinthe juste en dessous du cours Philippe Châtrier. C'est là que se trouvent les salles de presse des 250 journalistes présents ici. Ils peuvent y faire leurs interviews. Et pour les journalistes radio, comme nous, il y a une particularité. Au troisième étage du Philippe Châtrier, il y a un long couloir plein de petites cabines. Elles sont minuscules, elles font environ 2 mètres carrés. Christine Anquet de la RTBF, la radio belge, nous fait visiter.
Elle peut accueillir largement une personne à l'aise. Nous avons un écran avec les scores, nous avons la télévision, nous avons notre propre ordinateur. Il faudrait que d'une année à l'autre, je mette des petites décorations parce que c'est vrai qu'on a l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, mais on a l'impression que personne d'autre ne vient pendant l'année. On est vraiment chez nous, tout à fait. On peut mettre nos sacs, on peut mettre nos affaires. C'est vraiment notre petite maison pendant 15 jours.
C'est d'autant plus une maison que les journalistes y passent leur journée et avec les matchs en soirée, ils peuvent rester très très tard. Corinne Boulou et Axel May pourront le confirmer.
Oui, et vous aussi d'une certaine manière. C'est évidemment beaucoup de travail, mais l'avantage c'est qu'ils sont aux premières loges pour apprécier le spectacle.
Oui, car les cabines et la tribune presse donnent directement sur le cours Philippe Châtrier. C'est la meilleure vue. Alors c'est parfois difficile de regarder les matchs alors qu'un montage doit être fait ou un article écrit, mais Grégoire Audier de la RTS Radio Suisse a conscience de sa chance.
Pour être performant aussi, des fois, il faut savoir s'arrêter un petit peu. Donc des fois, je sors un petit moment de ma cabine, je vais un tout petit peu plus bas sur les places presse pour regarder simplement du tennis, prendre un peu l'air frais pendant 5-10 minutes. Ma petite pause pour me régénérer un petit peu avant de me remettre dans le boulot. On admire ce formidable cours Philippe Châtrier. Puis c'est vrai que là, on se rend compte qu'on est des privilégiés.
Grégoire a donc notamment pu assister à des matchs en nocturne ici et donc voir la victoire du Suisse Roger Federer avant d'être un peu déçu qu'il déclare forfait.
Bon, évidemment, ça donne des privilèges aussi. Merci Johanna. Alors Cédric, on l'a vu avec Naomi Osaka, hein, les relations avec la presse ne sont pas toujours simples. Maintenant que vous êtes de l'autre côté, en quelque sorte, en tant que consultant, quel regard vous portez sur ces deux univers ?
Écoutez, c'est vrai que lorsqu'on joue, quand on est en activité, on ne perçoit pas forcément l'intérêt de tout ça. En fait, tout joueur qui arrive, il joue par passion parce qu'il aime le jeu, et puis petit à petit, il commence à gagner des matchs et il y a la médiatisation qui arrive. Et c'est vrai qu'il y a selon les caractères, il y a des joueurs ou joueuses qui parlent plus facilement, qui ont un contact plus facile. Et puis, en fait, ça fait partie du boulot. Et c'est vrai que c'est très important, mais il peut y avoir une incompréhension, je dirais, entre la demande de la presse, oui, et le besoin de la presse et, oui, le besoin du joueur. En fait, ça va pas forcément ensemble.
Oui, le besoin du public aussi, qui a envie de savoir, oui, de comprendre, de connaître.
Exactement, d'autant plus que depuis l'arrivée d'Internet, hein, et des réseaux sociaux, ça a énormément évolué. La façon de communiquer, la façon de se promouvoir, c'est très différent.
Déjà, Julien, c'est assez récent aussi que des anciens joueurs comme Cédric, comme Fabrice Santoro ou Marion Bartoli ici, ou Jim Courier à l'Open d'Australie ou à l'US Open, ou John McEnroe aussi, interrogent maintenant, après match,
oui, sur le cours.
Oui, les plus, ceux qui viennent de jouer. Et donc, c'est vous qui posez les questions, hein.
Oui, alors on n'est pas tout à fait journaliste en fait, hein. On n'a pas ce rôle-là. On vient plus recueillir les premières impressions avec justement notre background de joueur en fait.
Oui. Vous posez des questions sympas, mais en même temps, vous êtes quelqu'un de sympa, Cédric
Pioline.
Non, je vous brosse dans le sens du poil parce que c'est l'heure de la question qui fâche maintenant, Corinne.
Oui, l'éthique des joueurs, routine ou superstition ? Nous avons parlé tout à l'heure de superstition, mais que dire de tout ce rituel, par exemple, de Raphaël Nadal, on l'a vu tout à l'heure, avant de servir ou pour rejoindre son côté. Lui dit qu'il ne s'agit pas de superstition, du style « si j'oublie l'un de mes gestes avant de servir, je vais perdre », mais d'une routine. C'est étonnant quand même ce besoin d'éviter de marcher sur les lignes au changement de côté, cette nécessité de placer ces deux petites bouteilles d'eau l'une derrière l'autre qui l'aide dans sa concentration. Il y a ceux aussi qui, comme Richard Gasquet, réclament la balle avec laquelle il vient de marquer un point, ou ceux qui mettent un point d'honneur à demander plusieurs balles avant de choisir la meilleure, comme Djokovic qui la font rebondir un nombre incalculable de fois avant de servir, ou encore celles et ceux qui ont besoin de sortir un petit carnet de leur sac sur lequel en fait ils ont de précieuses notes.
Cédric Pioline, vous aviez-vous un rituel d'avant-match ?
J'avais une forme de routine d'avant-match. Bon, bah, enfin, c'est pas très compliqué, l'échauffement, tout ça. Mais c'est vrai qu'après, plus sur le court, je dirais qu'il y avait c'est un mélange de routine et de superstition. C'est pas ou l'un ou l'autre. Et moi, j'aimais bien choisir mon siège, par exemple, être le premier à rentrer sur le court, comme ça, on a le choix. Ça dépendait des matchs. Parfois, il fallait surtout pas marcher sur les lignes. D'autres fois, surtout, il fallait les nettoyer. En fait, ça variait selon. En fait, on se raccroche à des petites choses, mais il y en a qui, on a vu Nadal, mais il y en a d'autres qui vont très loin, qui ont des espèces d'objets fétiches dans leur sac. J'ai même entendu parler de doudou. Enfin, il y a des, ça va loin, quoi.
Oui, c'est vrai. Bah, par exemple, Stan Wawrinka, il y a eu son short fétiche avec lequel il a gagné ici. Il en a même fait des porte-clés. qu'il a distribué aussi à la presse un peu plus tard. Ouais. C'est vrai que tout ça. Malgré tout, on est dans un sport tellement difficile qu'il faut parfois se raccrocher à cela, hein, pour essayer d'être concentré, de pas se laisser déstabiliser par ou le public ou son adversaire.
Oui, des petites choses qui rassurent, qui font qu'on se sent un petit peu mieux, même si c'est un côté irrationnel, ça va jusqu'à des joueurs qui font l'ordre de leur tribune, de leur box. Ils disent, mais alors le coach, il est là, ma femme, c'est là, l'entraîneur physique, c'est là.
Parce que si c'est une autre place, ça va pas.
Ça va pas.
ça
va pas. Ou alors, on l'a vu avec certains joueurs qui chassent. À un moment, ça va pas. Ils chassent certaines personnes de leur tribune en disant non, toi, tu t'en vas, toi. Voilà quoi.
C'est vrai qu'on l'a déjà entendu.
Non, ça peut aller loin. Ouais.
Bon, c'est pareil. Corinne Boulou, elle a son doudou. Vous regarderez bien au fond de son sac à chaque fois qu'elle présente son émission. Merci les amis. Merci Cédric Pioline. Merci Corinne pour toutes ces infos coulisses et ces résultats du jour. Et bien justement, vous savez quoi ? On va rester à Roland-Garros avec Lionel Rousseau qui est pas très très loin de vous. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Julien. Bonsoir à tous.
Grande soirée tennis ce soir avec un match important, un match au sommet, Djokovic
face à Berrettini, l'Italien, effectivement, pour une qualification pour les demi-finales, bien sûr. Nadal s'est qualifié cet après-midi, donc vous voyez où je veux en venir. Ça va être formidable si Djokovic venait à se qualifier. Mais surtout, c'est un moment historique, car le public est de retour. En tout cas, le public en nombre. Et ce soir, à partir de 20h, on lâche les fauves, Julien. C'est-à-dire que, tout simplement, le public, et notamment 5000 supporters, pourront assister à cette rencontre, alors que jusqu'à présent c'était à huis clos, donc on est content et on va vivre ce moment tous ensemble, Julien, voilà.
Eh bien, vous êtes un sacré vénard. On vous retrouve dans quelques secondes, Lionel. Dans un instant, le rappel de l'info, 20h, Christophe Lamarre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, toujours en direct de Roland-Garros, justement, à partir de 18h. Merci de votre fidélité, à demain.
Roland-Garros 2021. L'événement tennis est sur Europe 1.